Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Jusque-là, bon, on se disait pourquoi pas un suicide, pourquoi pas un départ volontaire. Là, il y a trop d'énigmes, là, il y a trop d'interrogations. C'est étrange.
Bonjour. Quand Françoise Saffer a disparu au cours d'une nuit de l'été 2013 dans une petite commune du territoire de Belfort, les enquêteurs ont pensé au départ volontaire d'une femme désespérée, dépressive, malheureuse, affaiblie par une récente tentative de suicide. Son mari, le chauffeur routier Éric Desnoux, l'a pleuré à chaudes larmes jusqu'à ce que l'enquête révèle ses multiples visages. Veuf éploré le jour, mais débridé et joyeux la nuit, dès qu'il retrouve sa maîtresse cachée. Son parcours est tout aussi intrigant. Une première épouse morte brutalement et puis ce drôle d'empoisonnement qui a failli emporter Françoise quelques mois avant qu'elle disparaisse. À partir de ce moment-là, le chauffeur routier va quitter le costume de simple témoin pour endosser celui du suspect numéro 1. Le scénario d'un crime qui aurait pu être parfait va peu à peu se dessiner. Mais que s'est-il passé derrière les murs de cette maison? L'époux a-t-il vraiment la carrure d'un meurtrier? Et s'il n'en était pas à son coup d'essai? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Françoise Saffer. À l'été 2013, cette mère de famille remariée un chauffeur routier disparaît brutalement de son domicile, un village du territoire de Belfort. Le pire est envisagé car l'épouse avait depuis des mois des idées noires. Vendredi 30 août 2013, 21h13, les gendarmes de Montreux-Château se présentent au numéro 10 de la rue Haute à Bourogne, un village entre Belfort et Montbéliard. Éric Desnoux, 52 ans, vient de signaler la disparition de son épouse Françoise, 56 ans. Ils sont mariés depuis 5 ans. Françoise travaille comme vendeuse dans une boulangerie du coin, lui, et chauffeur routier. Il raconte avoir quitté la maison deux jours auparavant, le 28 août, vers 6h15 du matin. Ce matin-là, justement, Françoise s'est levée pour préparer le café. Ils ont pris leur petit déjeuner ensemble, puis il a pris la route. Le soir même, il l'a eu au téléphone. Mais quand il est rentré, ce vendredi, aux alentours de 17h30, Françoise n'était pas là. La maison était fermée. Le mari indique qu'elle n'est pas partie en voiture. La voiture est restée dans le garage. Elle a laissé toutes ses affaires, a seulement emporté son trousseau de clés et son téléphone portable, lequel ne répond plus. Éric Desnoux précise que Françoise a une santé précaire. Elle est en arrêt maladie, longue durée, à cause d'une intervention chirurgicale subie il y a quelques mois à l'hôpital de Belfort. On avait dû lui enlever une partie de l'estomac. Elle avait voulu se suicider en avalant des produits corrosifs du type eau de Javel ou liquide pour déboucher les canalisations. Les gendarmes lancent les premières recherches. Le signalement de Françoise Saffer, silhouette mince, chevelure frisée rousse, yeux bleus, est diffusé. Mais personne ne l'a croisée ou aperçue. Les trois filles de la disparue, nées d'un précédent mariage, sont interrogées. Céline indique que la dernière fois qu'elle a communiqué avec sa mère, c'était le 27 août. Françoise lui a parlé d'un prochain repas familial, elle allait bien. La fille confirme toutefois que sa mère est dépressive et a déjà tenté de mettre fin à ses jours. Interrogée sur le couple que forment sa mère et son beau-père, Céline indique que le climat qui règne au sein de ce couple n'est pas vraiment au beau fixe. Sa mère soupçonne Éric de la tromper. Elle a découvert des photos de femmes dans ses affaires, dans la cabine du camion. Elle s'est aperçue que son mari fréquente sur Internet un site d'annonce échangiste. On le voit en photo avec une femme sous cette annonce. Sam et Sandra cherchent partenaire pour relations polissonne et torride. Sa mère a confié avoir trouvé dans le téléphone d'Éric le nom d'une certaine Sandra. Elle serait sa maîtresse attitrée. Mercredi 4 septembre, 5 jours après le signalement de la disparition, le mari est interrogé. La maison de la rue Haute est perquisitionnée. 3 ordinateurs et 3 téléphones sont saisis. Les gendarmes sont rapidement convaincus qu'Éric Desnoux leur cache des choses. Il ne leur a pas dit qu'il était titulaire de 5 lignes de portable, qu'il se dissimulait sous divers prénoms, Sam, Val, Alain, lors des conversations ou encore qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec une habitante de la région, Sandra N. Les frères de Françoise sont interrogés sur ce mari qui ne dit pas tout. Marcel explique qu'Éric Desnoux aurait peu à peu entraîné sa sœur à rompre tout lien avec la famille. Valerio, lui, est beaucoup plus direct. Il estime que le mari infidèle a tué sa femme et a fait disparaître le corps. Une famille qui pointe du doigt Éric Desnoux, elle ne porte pas cet homme dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais à ce stade, rien n'indique que le mari soit impliqué dans cette disparition. Ces quelques mensonges, ces infidélités, après tout, ça ne peut pas faire forcément de lui un meurtrier. La téléphonie et le retour des enquêteurs dans la maison de Bourogne vont tout changer, on va en parler dans la suite de l'émission. On parle tout de suite, là, on va revenir aux premières heures de cette affaire et les questions vont se poser autour de Françoise Saffert. Elle a 56 ans, elle a déjà été mariée et elle disparaît à un mauvais moment. Bonjour Dimitri Ramelot.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui en direct dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste et vous êtes correspondant RTL dans la région Grand Est. Vous connaissez parfaitement les faits divers que vous traitez très souvent dans cette région et vous connaissez bien cette histoire. Alors, on peut dire que Françoise Saffert, elle disparaît, mais après tout, il n'y a rien d'anormal. C'est une femme qui est en pleine souffrance. On va dire qu'elle aurait voulu se suicider, c'est ça ?
Oui, c'est en tout cas l'idée de départ. Elle est en pleine souffrance, elle a fait des tentatives de suicide, donc elle a découvert que son mari ne lui serait pas extrêmement fidèle. Donc disparaître, pourquoi pas, se suicider, pourquoi pas, mais quand même assez rapidement, les enquêteurs vont trouver des éléments qui les font un petit peu douter de cette thèse, et donc à partir de ce moment-là, ils vont creuser pour être sûrs de ne pas faire fausse route et de ne pas laisser un coupable dans la nature qui aurait peut-être pu faire disparaître Françoise.
Bonjour Maître Randall Schwerdorfer.
Bonjour Monsieur Alphonse Richard.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Besançon et dans cette histoire, vous êtes l'avocat de la famille de Françoise Saffert avec Maître Julien Robin et puis vous êtes auteur du livre, je le rappelle, Itinéraire d'un avocat hors norme qui a été publié aux éditions Hugo Doc. On a parlé d'ailleurs de ce livre déjà sur RTL. Alors, quel est ce couple ? Quelques mots, Françoise Saffert, Éric Desnoux. Dimitri Ramelot vient de nous dire que les gens vont avoir des doutes rapidement sur le mari. Ça se passe pas bien dans ce couple ou
en fait,
tout est caché?
C'est un couple assez récent en réalité. Madame Saffert s'est mariée avec Monsieur Desnoué, c'est pas son premier mariage. Il n'y a pas une histoire très longue entre eux en réalité. On sait qu'elle est très fidèle. Mmh. On sait qu'elle est très amoureuse de lui, très impliquée dans sa vie amoureuse, au point de s'isoler même et d'accepter l'isolement qu'il lui impose vis-à-vis de sa famille. Par contre, on a très vite l'impression que les sentiments ne sont pas si réciproques que ça. Mmh. On sait qu'elle est très fidèle. Mais par contre, on se rend compte très vite que lui n'est pas du tout fidèle.
Elle en a parlé à ses filles, tout simplement. Alors, ça revient aux oreilles des gendarmes.
Elle a fait des recherches. Elle a trouvé effectivement des photos compromettantes. Elle a trouvé des éléments qui lui permettent de savoir, d'être certaine que son mari a une double vie. Elle ne sait pas qu'il en a peut-être une triple ou une quadruple. Mmh. Elle en parle à ses filles, naturellement. Et c'est pas une femme suicidaire qui parle à ses filles. C'est une femme amoureuse qui est profondément perturbée par ce qu'elle a découvert et qui essaye de savoir tout ce qu'elle peut savoir sur cet homme pour qui elle nourrit des sentiments amoureux très forts.
Mmh. Ça l'intrigue, cette histoire. Hein. On sent qu'elle fait beaucoup de recherches, effectivement, sur Internet.
Notamment sur Internet, effectivement.
Et sur le téléphone, elle trouve dans les affaires de son mari des photos, enfin, beaucoup de choses.
En fait, elle a toutes les preuves que son mari a non seulement une double vie, mais manifestement aurait une sexualité qu'elle ne lui connaît pas.
Dimitri Ramelot, effectivement, ce qui apparaît rapidement, c'est la présentation, on va le dire comme ça, hein, d'un mari qui est volage, qui est libertin.
Ah bah oui, il est en couple avec Françoise, mais effectivement, elle trouve sur Internet des annonces sur des sites libertins, échangistes, des photos de lui avec une autre femme, dont elle va chercher à savoir qui c'est, hein, effectivement. Et là, elle se rend compte que celui qu'elle connaît comme compagnon, comme homme, ne correspond pas du tout à ce qu'elle voit au quotidien depuis ses nombreuses années de mariage. Et quelque part, elle est sidérée et... À ce moment-là, elle est effectivement en face de quelque chose qui est inimaginable et qu'il faut intégrer, sur lequel il faut avancer, creuser. Et c'est pour ça, comme le disait Maître Randall Schwerdorfer, que je salue au passage, qu'elle a cherché, et que finalement, elle a trouvé.
Ouais, c'est ça, elle a trouvé. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant, Maître Randall Schwerdorfer, c'est que les gendarmes, ils vont procéder de manière très intelligente, hein, d'ailleurs, par cercle concentrique. Ils vont pas aller tout de suite vers le mari. Ils ne veulent pas l'effrayer, mais ils vont continuer à enquêter en profondeur sur lui.
Ils vont le laisser penser qu'ils sont dupes de ses déclarations. Il joue les mariés pleurés.
Il joue pas mal d'ailleurs.
Il joue très bien les mariés pleurés et surtout il arrive à convaincre presque, il le pense, que le suicide est l'issue, la seule issue possible. Elle est partie d'ailleurs sans carte bancaire, avec une petite robe qui n'est même pas une vraie robe, et son trousseau de clés, errer quelque part et se suicider quelque part. Et ça, il est persuadé que c'est passé, à tel point qu'il ne va prendre aucune précaution. On va le mettre sous écoute téléphonique. Sous écoute téléphonique, c'est phénoménal ce que vont découvrir les gendarmes sur sa vie. On va étudier les comptes bancaires et surtout aussi celui de Françoise.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'on va découvrir, c'est que au moment où elle a disparu, son compte bancaire lui continue à fonctionner. Et pas forcément chez eux, mais dans des restaurants. Lorsqu'on va faire des investigations pour retrouver qui a participé au repas dans tel restaurant, etc., ben on va se rendre compte que dans les activités libertines de Monsieur Desnoué, juste après la séparation de Françoise Saffer, il y a un petit repas sympathique en vue d'une soirée coquine, payé avec la carte bancaire de Françoise.
Les doutes commencent évidemment à s'accumuler. Même si Dimitri Ramelot, encore une question quand même, même si on peut quand même s'interroger sur la disparition. Après tout, Françoise, elle a fait une tentative de suicide épouvantable. Elle a été opérée de l'estomac, elle est encore souffrante, elle est sous médicaments, elle est chez elle, c'est terrifiant. Donc on peut se dire, après tout, cette femme, elle est désespérée, elle est partie.
Sur cette tentative de suicide...
Et après vous, Dimitri.
Les filles de Mme Saffer ont toujours été claires. Elle a toujours dit qu'on l'avait empoisonnée. Elle a affirmé à ses filles qu'elle n'avait jamais essayé de se suicider avec un quelconque produit comme du Destop ou de l'eau de Javel, qu'on lui en avait mis dans son café, qu'elle s'était sentie mal immédiatement après, et que jamais elle n'avait eu l'intention de se suicider de cette façon-là. Et donc ça s'est totalement contesté par ses filles.
Sauf que Dimitri Ramelot, là les filles ne vont pas la croire, parce qu'elle avait déjà fait une autre tentative de suicide il y a bien des années, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Elles ne vont pas la croire et elles vont finalement un peu regretter à la fin. Mais ce qui est fort de la part des gendarmes, c'est qu'eux vont faire croire qu'ils croient à cette version, parce que ça permet finalement à Éric Desnoué de se dire « Bon, ben voilà, on n'est pas sur moi, il croit à la version. » Et c'est peut-être pour ça aussi que finalement il lève les barrières, qu'il se protège de rien du tout, que finalement il y va franchement avec ses dépenses de carte bancaire. Il va aussi faire disparaître des sacs de pièces d'argent dans la maison. Enfin, c'est incroyable.
Et on va finir par l'accrocher, le mari. Autant de mensonges, d'oubli, de coïncidences qui vont inciter les gendarmes à redoubler encore et encore de curiosité. Les experts de la gendarmerie se plongent dans les données téléphoniques de Françoise Saffer et d'Éric Desnoué, lequel disposait de 5 lignes de portable au moment de la disparition. L'épouse a coupé son téléphone chez elle le 27 août au soir aux environs de 20h50. Elle l'a rallumé le lendemain matin à 5h, heure à laquelle s'est levé son mari. Les enquêteurs sont intrigués, car Françoise ne coupe jamais son portable la nuit. Les investigations démontrent que celui-ci n'est jamais éteint le soir. Avant de disparaître, l'épouse a multiplié ses recherches sur la fameuse maîtresse de son mari, Sandra, et sur des sites libertins. Les bornages téléphoniques du mari et de l'épouse sont recoupés. Surprise de taille, le 28 août, alors que Françoise était censée se trouver seule à son domicile, son portable borne dans le Haut-Rhin, où Éric Desnoué roule avec son camion pour son travail, Colmar, Wissembourg, Ribeauvillé, comme si l'épouse pouvait être dans la cabine. Autre bizarrerie, Desnoué a vidé les comptes d'épargne de son épouse juste après la disparition, argent viré sur son compte. Un mois plus tard, la fameuse maîtresse Sandra est venue s'installer dans la maison. Lorsqu'il est en conversation avec les filles de Françoise, il semble abattu. Quand il discute avec Sandra, il est particulièrement enjoué, notent les enquêteurs. Jeudi 7 novembre 2013, les gendarmes sont de retour dans la maison de Bourogne. Les pièces sont passées au Blue Star, produit qui révèle les taches de sang. On détecte des éclaboussures dans la chambre à coucher du couple, dans le couloir et sur les escaliers qui mènent au sous-sol. Il y a sur ces marches une grande quantité de sang, des taches souvent essuyées, lessivées. Le sang révèle l'ADN de Françoise Saffer et deux profils masculins. Un inconnu, l'autre qui correspond au mari. Une information judiciaire pour meurtre est ouverte par le procureur de Montbéliard.
Mardi 17 juin 2014, 10 mois après la disparition de Françoise Saffert, Éric Dénoué et Sandra sont placés en garde à vue. La maîtresse confirme la relation entretenue avec le mari et leur penchant pour les relations échangistes et libertines. Elle raconte avoir été en contact à 2 ou 3 reprises avec Françoise Saffert, laquelle l'a un jour injuriée. Sandra est rapidement mise hors de cause. Dans la disparition, elle est libérée. Éric Dénoué se dit étranger à l'affaire. Il modifie ses déclarations et puis donne une nouvelle version. Le 27 août 2013, il s'est disputé avec Françoise. Il lui a donné un coup d'épaule, un geste de mauvaise humeur. Il n'avait pas vu que la porte qui ouvre sur l'escalier de la cave n'était pas verrouillée. Françoise a dévalé les marches. Il a vu qu'elle saignait. Il est remonté fumer une cigarette. Une demi-heure plus tard, il s'est aperçu qu'elle avait rampé sur le sol et qu'elle ne respirait plus. Il s'est affolé. Il a enveloppé le corps dans des sacs plastiques. Il a passé la nuit à nettoyer le sous-sol. Le 28 au matin, il a embarqué la dépouille, les balais, les serpillières dans son camion. Il s'est débarrassé du matériel et de la victime le long de son trajet. Direction Strasbourg. Éric Dénoué qui va conduire les gendarmes jusqu'au corps. L'autopsie va-t-elle confirmer une possible chute accidentelle? Eh bien, on va voir ça dans la suite de l'heure du crime. Enquête qui va mener à s'intéresser d'ailleurs à la mort de l'ancienne épouse, la première épouse du routier. Et puis à la fameuse tentative de suicide de Françoise. Mais ça, on va en parler dans le prochain chapitre. Alors, il faut saluer tout de suite le travail des experts de la gendarmerie. Maître Randall Schwerdorfer, vous êtes l'avocat de la famille de Françoise Saffert avec maître Julien Robin dans cette affaire et vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime. Je le dis, travail technique très important et qui a été très rapide, très bien fait. Et puis il y a ce quadrillage téléphonique. On trouve que les deux téléphones, ils bornent quasiment presque au même endroit. On a l'impression que les deux personnes sont dans la même cabine, dans ce camion qui roule vers Strasbourg. C'est assez hallucinant, parce que Éric Dénoué a supposé qu'à ce moment-là, il ait fait disparaître sa femme et qu'il l'ait tuée. Il n'a peur de rien, il se doute de rien, il est complètement inconscient.
Il n'est pas du tout éduqué à la chose criminelle.
Oui, c'est...
On s'en rend compte.
Tant pis pour lui, mais...
Il fait énormément d'erreurs. Et les gendarmes, ça va être une enquête implacable. La téléphonie, c'est implacable. Quand on se rend compte qu'effectivement, alors que Françoise a disparu, son téléphone borne, au même moment et en même temps que le téléphone d'Éric Dénou, ça va pas. Il y a un problème.
Oui, il y a un problème.
C'est en totale contradiction avec sa version. Ce qui est très parlant, c'est le Blue Star. Moi, j'ai encore les images dans la tête des révélations
du Blue Star.
On y voit très clairement, effectivement, des traces de sang. Quelques traces de sang dans la chambre, donc on peut imaginer qu'il s'est passé quelque chose de violent dans la chambre, notamment avec une arme contendante. Et puis on y trouve ensuite des traces qui continuent le long de l'escalier, qui longent la cuisine, et qui vont jusqu'à l'escalier qui donne au sous-sol. Par contre, au sous-sol, c'est des traces beaucoup plus massives, même si le Blue Star ne donne pas de quantité, mais
on voit
en très grosse
circonférence
exactement.
D'étage.
Exactement. Et on voit effectivement que soit on a traîné un corps, soit la personne a rampé jusqu'à un endroit. Mais en tout cas, on voit qu'il s'est passé une scène en deux temps, quelque chose de très violent au pied de l'escalier, qui a continué sur à peu près 4 mètres pour ensuite disparaître.
Alors ça, c'est tout à fait impressionnant. On a essayé de lessiver tant bien que mal ces tâches, même si ça fonctionne. Enfin, le Blue Star, il est impitoyable pour ça. Dimitri Ramelot, vous êtes notre correspondant RTL dans la région Grand Est et avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. On en parle à l'instant avec maître Schwerdorfer. Il y a tout ce sang qui a été nettoyé. Alors les gendarmes, ils ont découvert ce sang, mais pourtant, ils vont continuer leur enquête. Ils ont tout sous la main, là. Ils peuvent aller l'interpeller cet homme. Pourquoi il continue comme ça?
Oui, c'est fou parce que il va y avoir 7 mois.
Mais oui, c'est énorme.
Après, c'est énorme. Et en fait, ils sont dans une stratégie d'accumuler les preuves le plus possible pour que, au moment où ils vont aller le cueillir et le placer en garde à vue, bon, s'ils donnent une réponse qui tient à peu près la route sur la première preuve, bon, la deuxième preuve, mais 3, 5, 10, 15, preuves, la téléphonie, la génétique, comme disait maître Randall Schwerdorfer, il y a un moment, ce n'est pas tenable, si vous voulez. Donc, c'est pour mettre tous les atouts de leur côté que les gendarmes persistent, accumulent les preuves pour qu'au moment où, eh bien, finalement...
Ils soient coincés, c'est ça.
Et,
ouais.
Et ils ne puissent pas s'en sortir. Et que voilà, ensuite, ils soient déférés et que la procédure judiciaire suive son cours. Mais c'est vraiment l'idée du millefeuille pour que, si les premières feuilles, ça ne marche pas, bon, à la fin du millefeuille, il est éventuellement craqué avec des aveux, ou en tout cas, il ne puisse pas s'en sortir.
Oui, effectivement, effectivement. Et souvent, les gendarmes, d'ailleurs, ils procèdent de cette manière. C'est une technique d'enquête qui est relativement récente, mais qui fonctionne très bien, maître Randall Schwerdorfer. Donc, il y a ces aveux, finalement. Hein. Il passe aux aveux.
Faut pas oublier qu'il n'y a pas de corps.
Il n'y a pas de corps, mais il passe aux aveux. C'est un accident. C'est un accident. Hein. Il n'en dit pas plus pour l'instant. C'est un accident. Mais la scène qu'il décrit, je voudrais vous entendre là-dessus. Parce qu'il dit « je suis allé fumer une cigarette ». Elle saignait, je suis allé fumer une cigarette.
La présentation que vous donnez est tout à fait exacte. Et c'est vrai que c'est cette présentation, cette accumulation de preuves qui va permettre d'acculer Éric Desnouets un moment sur les aveux. Mmh. C'est pas spontané, les aveux. Hein. Mmh. Il va falloir vraiment lui dire « voilà tout ce qu'on a contre vous ». À un moment, c'est implacable. Il est obligé de reconnaître qu'effectivement, et notamment le booster, etc., il y a eu quelque chose de violent. Mmh. Et c'est là où il met en avant le fait que il y a eu un coup d'épaule malheureux, sans faire exprès, cette chute, et que Françoise, qui pèse pas grand-chose à l'époque, hein, je crois 42...
Oui, puis elle est malade.
Elle est malade, hein, attention, elle a plus d'estomac. Se serait fracassé le crâne en bas. Et là, il sort cette explication complètement ubuesque, en disant « quand j'ai vu ça pour me calmer, j'étais fumé une cigarette, j'ai attendu de voir si elle se relevait, j'étais fumé une cigarette. » Et là, on se dit « c'est pas possible. Mmh. » Je veux dire, cette pauvre femme qui a dévalé soi-disant l'escalier, selon sa version, qui aurait laissé de telles traces de sang, c'est-à-dire que ce serait fendu le crâne sur le sol, il l'aurait laissé agonisante en allant fumer une cigarette.
Et puis c'est ce que disait Dimitri Ramelot, elle a rampé cette femme, il y a des traces, et vous le disiez
On pense plutôt qu'elle a été traînée jusqu'au coffre de la voiture, et chargée dans la voiture, plutôt qu'avoir rampé. Mmh. On pense qu'elle était morte et qu'on lui a fracassé le crâne en bas de l'escalier. Avec un objet, en tapant sa tête contre le sol, je sais pas. Mais
Dimitri Ramelot, il faut le dire quand même, hein, c'est souvent la version donnée par les coupables de féminicide. L'accident, c'est un accident, je l'ai poussé, excusez-moi, je l'ai giflé, mais je savais pas que ça allait la tuer. C'est toujours ce qu'on entend.
Bah oui, mais pourquoi? Tout simplement parce que le meurtre par conjoint est plus sévèrement puni, et puis c'est inavouable aux yeux de la société, et c'est très probablement pour certains inavouable pour soi-même après coup de se dire j'ai tué ma femme, j'ai tué ma compagne. Donc là, on est à la fois dans une stratégie de défense d'Éric Desnouets, mais aussi une stratégie de protection peut-être vis-à-vis de soi-même, parce que c'est impensable de se dire qu'on a fait ça.
Le mari va conduire les gendarmes dans une forêt où un squelette va apparaître.
On est face à deux affaires qui se ressemblent presque trait pour trait. On a une première épouse, une première femme qui meurt dans des conditions assez mystérieuses. Et puis, une autre femme, encore une fois, qui disparaît du jour au lendemain sans laisser aucune trace. Et à chaque fois, qu'est-ce qui rassemble ces deux femmes? Eh bien, c'est Éric Desnouets.
Mercredi 18 juin 2014, Éric Desnouets conduit les gendarmes et le juge d'instruction jusqu'à la vaste forêt communale d'Urseray, à quelques kilomètres de Belfort. Après quelques minutes de marche, le corps de Françoise Saffer est découvert sous deux grands arbres. Mais il ne reste que des ossements épars, des vertèbres, des côtes, un crâne, des dents et une alliance en métal doré. Les animaux sauvages, les intempéries ont quasiment fait disparaître le corps. Un vibromasseur de couleur bleue est découvert sous la dépouille. Desnouets n'explique pas cette découverte. Les enquêteurs pensent que le mari voulait sans doute faire croire au crime d'un sadique sexuel. L'autopsie ne parvient pas à déterminer les causes de la mort. Les gendarmes se penchent sur le décès de la première épouse du chauffeur routier Chantal Motu, 41 ans, morte le 3 décembre 2006 près d'Orléans, dans des conditions mystérieuses. Éric Desnouets était là quand elle a rendu son dernier souffle. Il a ensuite quitté la région. Les parents de Chantal ont toujours eu des doutes sur cette mort. Ils affirment qu'Éric était violent et la battait. De leur côté, les filles de Françoise Saffer indiquent que leur mère, après son empoisonnement et l'opération à l'estomac, leur avait dit qu'elle n'avait pas voulu se suicider. Elle nous avait confié qu'Éric avait mis quelque chose dans son café. À l'époque, on ne l'a pas cru, car elle avait déjà fait une tentative de suicide quelques années auparavant, indiquent les filles. Et dans cette heure du crime, on rejoint tout de suite l'un de nos invités, c'est Dimitri Ramelot, journaliste correspondant à RTL dans la région Grand Est. Dimitri, vous êtes avec nous depuis le début de cette heure du crime, vous connaissez bien ce dossier. Autopsie impossible parce que le corps, il est bien trop abîmé, et c'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu savoir de quoi est morte Françoise Saffer.
Oui, alors pas d'autopsie effectivement, mais quand même voilà un examen du corps hein, qui est dans un état, on va le dire, de putréfaction avancée. Alors les médecins disent qu'il n'y a pas de traumatisme visible au niveau de la région crânienne où il y avait le cerveau, ce qui ne veut pas dire, Jean-Alphonse, qu'il n'y a pas eu de choc ou de coup avant ou après la mort. Pas possible également, 10 mois après, de déterminer de quelle manière et dans quelle position a été déposé ce corps à côté d'un arbre. Il manque la partie inférieure du squelette. Vous l'avez dit, il y a eu les intempéries, il y a eu les animaux. Donc finalement, les chances de pouvoir avancer dans cette enquête grâce à la découverte du corps sont finalement assez minces parce qu'on n'a aucune certitude suite à l'examen de ce cadavre.
Bien sûr, et c'est bien dommage parce qu'une autopsie c'est toujours très précieux en matière criminelle. Maître Randall Schwerdorfer, vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime, avocat dans cette affaire de la famille de François Saffer avec maître Julien Robin. Alors, deux questions. La première, c'est sur la première épouse. Je dis bien la première épouse, Chantal. Parce que ça, les gendarmes, ils vont regarder cette histoire. Elle est morte brutalement, près d'Orléans, elle avait une quarantaine d'années. On n'a jamais su de quoi elle est morte, cette femme.
Cette jeune femme, 40 ans, c'est jeune, hein, était pas très bien, devait aller passer des analyses de sang. La veille de sa mort, elle s'est sentie un petit peu mal, selon Éric Desnouets. Elle s'est allongée sur le canapé, et le lendemain matin, manque de chance, elle était morte. Aucune analyse de sang ne sera jamais faite. Surtout, le pire, c'est qu'aucun obstacle de médecine légale ne va être posé par le médecin de famille. Donc, pas d'obstacle en médecine légale, pas d'autopsie, pas d'analyse, enterrement, et ça s'arrête là. Ouais. C'est une mort très très surprenante. Elle n'avait aucune pathologie préexistante, aucun problème cardiaque, par exemple, aucun problème de diabète sévère ou ce genre de choses. On n'a pas pu s'empêcher, on ne peut pas s'empêcher de penser. Et notamment quand on va découvrir les fameuses recherches internet d'Éric Desnouets, notamment sur le laurier rose et tous les produits qui permettent naturels, qui permettent d'empoisonner.
Substances toxiques, hein, c'est ça?
Substances toxiques mortelles. On ne peut pas s'empêcher de penser que quelque part, on se serait débarrassé de cette femme, parce que c'est à l'époque où il rencontre sa nouvelle femme que, bizarrement, sa femme actuelle meurt.
Ouais. Donc il y a un concours de circonstances qui est pour le moins troublant.
C'est vrai qu'à chaque fois qu'une nouvelle femme rentre dans sa vie, parce qu'il est très amoureux de Sandra, hein, attention, hein, il veut absolument lui faire prendre la place de Madame Saffer.
Il l'installe d'ailleurs tout de suite à la maison.
Et dans ses habits aussi.
Ah bon?
Oui, très très vite. Donc on a l'impression qu'à chaque fois qu'une nouvelle femme arrive et que c'est la femme de sa vie, il faut que l'ex-femme de sa vie disparaisse. Et disparaisse de façon irrémédiable. C'est très étonnant. En tout cas, on se pose la question. Voilà. On s'est posé la question.
Un seul meurtre retenu contre Éric Desnouets, il va être jugé. Jeudi 26 avril 2018, Éric Desnouets, 56 ans, blouson beige, visage creusé et crâne dégarni, comparé devant la cour d'assises de Haute-Saône et du territoire de Belfort à Vesoul. « C'est moi qui ai donné la mort à ma femme, mais c'était tout à fait involontaire », déclare-t-il d'une voix monocorde. Il se dispute. Elle tombe, elle meurt. Il est en panique, il se débarrasse du corps, résume son avocat, Patrick Usan. Les avocats de la famille de François Saffer, maître Randall Schwerdorfer et Julien Robin, contestent ce scénario. Ils font remarquer que le crâne de la victime a été retrouvé intact, alors qu'elle serait tombée sur la tête. Les avocats estiment qu'il s'agit bien d'un meurtre avec au moins deux mobiles possibles. Primo, l'argent. Les comptes de Françoise ont été pillés. Les 3 kilos de pièces en argent et les bijoux ont disparu, dénonce la défense. Deuxième mobile, la volonté du mari de se mettre au plus vite en couple avec sa maîtresse et l'installer chez lui. L'avocat général réclame 25 ans de prison. J'aurais demandé la perpétuité si on avait établi qu'il avait par le passé empoisonné sa femme, dit le magistrat, qui ajoute. L'a-t-il frappé de manière répétée? A-t-il utilisé un couteau, une arme à feu, une hache? Faute d'autopsie, cette question n'aura jamais de réponse. C'est un meurtre glauquissime. 27 avril, Éric Desnouets est condamné à 25 ans de réclusion pour meurtre aggravé. Et avec nous dans cette heure du crime, maître Randall Schwerdorfer, avocat de la famille de Françoise Saffer, avec maître Julien Robin, je viens de le dire. Vous êtes donc à ce procès, évidemment. Quel est l'accusé que vous découvrez devant cette cour d'assises? Parce qu'il a multiplié, j'ai envie de dire, entre guillemets, les bourdes lors de cette expédition macabre. Il a laissé plein de traces, il a parlé au téléphone, il a installé sa maîtresse chez lui. Là, il continue à dire non, ben finalement, je suis pas tout à fait responsable. C'est un accident. La thèse de l'accident, toujours l'accident.
Un physique particulier, déjà Éric Desnouets. Il a un vrai profil criminel, c'est rare de voir un criminel aussi, de façon aussi univoque criminelle, c'est assez imprescriptible en réalité.
C'est-à-dire
ça se sent, sa façon d'être, sa façon de bouger, de parler, on sent quelqu'un d'extrêmement sombre en réalité.
Il se défile.
Alors qui se défile aussi et qui pense que tout va passer. Qui sous-estime constamment tout le monde. Mmh. Et qui s'imagine que des versions, même ridicules, peuvent passer parce qu'il le dit.
Ouais.
Et qu'on va le croire parce que...
Au plus c'est gros, ça peut passer.
Oui, parce que tout simplement, il comprend même pas qu'on s'intéresse autant à Françoise.
Mmh.
Il comprend pas non plus que on n'accepte pas la thèse
de l'accident.
Du suicide.
Ou
pour l'intoxication.
C'est ça.
Et puis ensuite de l'accident. Mmh. Voilà, tellement ça lui paraît évident que ça doit passer et qu'on doit l'accepter et qu'il voit pas le problème. Mais je crois qu'en fait, Françoise n'est tellement rien pour lui, Sandra est tellement tout, qu'il se dit on va quand même pas m'embêter pour ça. Pas pour
il elle, est vraiment ébloui par cette maîtresse.
Ah oui.
Il change de vie, chaque fois qu'il change de vie, bon
complètement
ben,
dingue.
Il fait table rase du passé.
Oui, et encore au procès, il est fou amoureux de cette femme. C'est incroyable, il l'a surinvesti, c'est impressionnant.
Hein. Laquelle va témoigner?
Laquelle va témoigner en premier procès, parce qu'il y en aura deux plutôt de façon favorable. Au deuxième procès, ça va être un petit peu différent quand même.
Mm-hmm.
Mais il est toujours complètement fou d'amour pour cette jeune femme.
Dimitri Ramelot, vous êtes notre correspondant RTL dans la région Grand Est et vous connaissez cette affaire. On est avec vous dans cette heure du crime. L'avocat général, je le cite, j'ai jamais entendu cette expression, un meurtre glauquissime. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'avocat général? C'est parce qu'il y a une mise en scène autour de ce corps, c'est ça?
Non mais effectivement, la mise en scène est quand même glauquissime, effectivement, lugubre, affreuse. Enfin, on retrouve quand même, 10 mois après son décès, le cadavre d'une femme. Imaginez, hein, 10 mois après, on va pas faire un dessin. Mais, et alors, ce vibromasseur bleu,
ben oui.
Qui est au niveau des parties génitales. Alors, est-ce que c'est pour faire croire à un crime sexuel ou pas? Alors que tout le monde est d'accord pour dire que, manifestement, elle n'a jamais parlé qu'elle utilisait dans son intimité. Alors, tout le monde ne parle pas de ça, évidemment, mais ce genre d'objet, avec Eric Desnouets. Donc, effectivement, la scène est terrible et c'est glauquissime aussi, Jean-Alphonse, parce que finalement, la vérité judiciaire va dire qu'il sait pendant 10 mois que son ex-femme, enfin qu'il a tué, est au fond d'une forêt, donc avec les animaux, les intempéries, et il continue à faire sa vie avec cette Sandra, etc. Donc effectivement, ça dépasse quand même l'entendement sur ce qu'il fait et ce qu'on a retrouvé, la scène qu'on a retrouvée. Cette femme dans cette forêt avec ce vibromasseur bleu.
Complètement, maître Schwerdorfer, encore un mot. Le mobile, l'amour pour Sandra ou l'argent, ou les deux? L'argent, il a pillé les comptes, hein, on l'a dit. Il a vidé les comptes de sa femme.
Juste pour vous préciser qui il est, quand on lui pose la question au procès, mais qu'est-ce qu'elle faisait avec un vibromasseur qu'on a retrouvé dans la saponification du corps, qui lui avait mis là, il répond, je ne sais pas. Et quand on lui dit, alors c'est un chasseur qui passait par là, qui avait un vibromasseur dans la poche et qui s'est dit, tiens, voilà un cadavre, je vais introduire un vibromasseur. Il dit, peut-être, c'est possible. Donc si vous voulez, on est face à quelqu'un qui a une version complètement folle.
C'est un peu déshumanisé, hein, le portrait de cet homme. On va en reparler, mais
c'est
effectivement,
réalité,
c'est glacial.
Le processus sera très dur. Et puis, sur le mobile, je vous dirais, oui, l'amour aveugle envers cette femme, j'ai pas de définition d'amour, mais là, c'est un amour complètement inconditionnel avec elle, et puis l'argent. Bien sûr, l'argent.
Les deux, donc.
Les deux.
Les deux. Le mari fait appel, va-t-il enfin s'expliquer ou non?
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Lundi 9 décembre 2019, Éric Desnouets, 58 ans, est jugé par la cour d'assises d'appel du Doubs à Besançon. Il ne change pas de version. La mort de Françoise Saffer ne serait pas un féminicide, mais un accident. Pour le reste, il répète, je ne sais pas, je ne me rappelle plus bien, et c'est loin tout ça. Desnouets écope de 30 ans de prison. Lors de l'enquête, Éric Desnouets avait été décrit par les psychologues et les psychiatres comme un menteur, un dissimulateur, incapable de mesurer la gravité de ses actes et manquant singulièrement d'empathie.
Ce qui est difficile, ben, c'est de vivre sans elle. Le manque d'une maman, mes nièces, qu'elle aura jamais connu sa petite fille. Et puis d'avoir fini comme ça, quoi.
La voix de René Blanchot, c'est la sœur de Françoise Saffert et c'était dans l'émission de nos confrères de RMC, émission Indice. Dans cette heure du crime, on reçoit maître Randall Schwerdorfer, qui est dans cette affaire et l'avocat de la famille de Françoise Saffert, avec maître Julien Robin. Puis je rappelle votre livre, maître Schwerdorfer, Itinéraire d'un avocat hors norme, publié aux éditions Hugo Doc. Et cette affaire, finalement, elle est aussi hors norme, vu la personnalité de cet homme, de ce meurtrier, qui on a l'impression qu'il ne regrette rien, en tout cas qu'il est dans un autre monde, c'est ailleurs, il a tué, il ne sait même plus trop pourquoi il a tué. Il ne s'est jamais excusé vraiment au cours de ses procès, maître Schwerdorfer.
Il n'y a aucune empathie. Il s'est comporté avec les filles de Madame Saffert comme avec son compte bancaire, c'est-à-dire qu'il l'a vidé. Pour lui, il a dépensé l'argent pour s'amuser sur le dos d'une femme qu'il avait tuée, sans que ça lui pose aucun cas de conscience. C'est rare, hein, les gens.
Oui, tout à fait.
Il ne manifeste quasiment aucune empathie, pas d'empathie vis-à-vis de son ex-femme qui est morte dans des conditions très étranges, pour pas dire mystérieuses. C'est un homme assez froid, hein. C'est un homme très glacial. J'ai dit que c'était une personnalité criminelle extraordinaire, moi, quand je l'ai vu, pour l'avoir pratiqué, mais extraordinaire dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il sort vraiment de la norme.
Parce qu'il y a beaucoup de
cause de cette froideur.
Il y a beaucoup de silence, mais c'est le frisson qui fait passer chaque fois, non ?
C'est les silences sans émotion, sans regret, sans remords, sans aucun état d'âme. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. On a des gens qui sont passés à l'acte, qui le regrettent, on sent qu'il y a de l'émotion, on sent qu'il y a des regrets, des remords profonds, des traumatismes aussi, hein, chez les personnes qui passent à l'acte. Là, on sent rien. On s'est débarrassé de cette femme comme d'un sac poubelle.
Oui, c'est ça. Mais c'est exactement le dire, ça, hein. Puisqu'il l'a emmenée dans des sacs poubelles. Elle a été dénudée, d'ailleurs.
Ça n'a pas été plus que ça.
Elle était totalement dénudée et il l'a laissée dénudée dans cette forêt.
C'était une femme très aimée par sa famille, ses enfants et sa sœur Renée m'avait beaucoup touché. Elle était vraiment traumatisée par la disparition.
Mais justement, cette famille, elle est au procès.
Ouais.
Elle regarde cet homme. Il n'y a pas d'échange entre cet homme qui est dans son blouson. Moi, j'ai vu les photos dans son blouson. Il est... C'est petit bonhomme, hein.
Ouais, il est pas très impressionnant, mais son regard est très fixe, très froid. Il tient le regard sans aucune difficulté, très vide. Mmh. Moi, je l'ai regardé souvent. Je regarde toujours les gens contre qui je suis, hein, chez rien de personnel. Mais je dois dire que lui m'a impressionné. J'ai vraiment trouvé qu'il avait une personnalité criminelle. Je le redis. Hors norme.
Hors norme. Dimitri Ramelot, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, journaliste, et puis vous êtes notre correspondant RTL dans la région Grand Est. J'ai envie de vous demander, vous qui connaissez bien les affaires criminelles, s'il n'y avait pas eu tout ce sang, cette téléphonie, les erreurs qu'a fait cet homme, il passait totalement à travers, Éric Desnoux, parce que pendant un moment, on l'a laissé tranquille.
Alors, on l'a laissé tranquille, effectivement, mais il faut voir si il aurait craqué sans ces révélations du Blue Star.
Et pas sûr.
On est dans la fiction et il n'aurait effectivement peut-être pas craqué compte tenu de la personnalité, du portrait psychologique et psychiatrique de ce garçon que vient de faire Maître Randall Schwerdorfer, c'est-à-dire que sûr de lui, alors qu'il a quand même fait énormément d'erreurs, froid, dénué d'affect pour certains, plein d'affect pour d'autres, qui cloisonne énormément les choses, et probablement que sans cette preuve massue que sont les traces de sang partout dans la maison, quasi partout dans la maison, peut-être qu'effectivement il serait passé sous les radars de la justice, et peut-être, même s'il est présumé innocent sur la première affaire de sa première femme, pour une deuxième fois. Donc c'est vrai que on ne saura jamais, mais c'est probable.
Juste un tout petit mot, Dimitri Ramelot, la NAS, c'est totalement refermé et de manière très méthodique, hein, sur cet homme. L'enquête, elle est parfaite.
Oui, les gendarmes ont pris tout le temps qu'il fallait. Ils voulaient arriver à un résultat. Ils ont fait rentrer les preuves une par une dans le dossier. Parfois un petit peu tardivement, de façon à ce que on puisse pas trop s'organiser au niveau de la défense. Et puis voilà, ils ont attendu, et au moment où c'était bon, ils se sont dit on a assez, ils l'ont cueilli, ils l'ont mis face à toutes ces preuves. Et au bout du bout, il a été obligé de
craquer.
Et le bout du bout, c'était des traces de sang.
Oui, voilà, on parle souvent des enquêtes qui ne fonctionnent pas dans l'heure du crime, mais là, celle-là, elle fonctionne, donc il faut saluer le travail. Un tout dernier mot avec vous, maître Randall Schwerdorfer. On n'a pas de réponse sur les derniers moments de Françoise.
La famille n'a pas de réponse, on ne sait pas ce qui s'est passé, si elle a pris des coups de couteau ou assommé.
On ne peut que l'imaginer, on n'a aucune réponse, mais on pense qu'il n'y a pas eu d'agonie. Hein. Ça a commencé dans la chambre, le scénario pour nous est assez clair, et ça s'est fini 2 minutes après en bas de l'escalier avec les coups de couteau d'achèvement. Mais pour nous, elle a été tuée par arme blanche.
Merci infiniment Maître Randall Schwerdhofer et Dimitri Ramelot d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, aux préparations Marie Bossard, Priscille de Gueffier, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.